de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue à tous. Ce sont des découvertes qui ont révolutionné les savoirs, sauvé des vies, marqué l'histoire et même influé sans doute sur le cours de l'histoire, ou qui ont tout simplement changé notre vie quotidienne. De la pénicilline au bâton de dynamite, de la radioactivité au four à micro-ondes, en passant par le Viagra, le LSD ou le post-it, ces découvertes ont toutes un point commun. Elles se sont faites par hasard. Mais que serait le hasard sans l'imagination, la curiosité, la ténacité et l'audace? Et si l'on remonte au premier temps de l'homme sur Terre, les facteurs biologiques ou environnementaux sont-ils suffisants pour expliquer l'incroyable expansion humaine? De la préhistoire à nos jours, comment la science a-t-elle progressé et du même coup permis à l'humanité d'avancer?
Eureka, j'ai trouvé.
Qu'est-ce que vous pensez avoir inventé?
Rien pour l'instant.
Merveilleux! Prodigieux!
Ça y est, j'ai trouvé.
Je note. Inventer un truc.
Qui c'est qui invente ces trucs? Vous les connaissez, les mecs, vous?
Je suis désolé, je l'ai pas fait exprès.
Bon Dieu, mais c'est bien sûr.
Raphaël Chevrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en physique, vous travaillez pour Arianespace et vous venez de publier votre premier livre, Ça alors, histoire de ces découvertes que l'on n'attendait pas, publié par la librairie Vuibert. Vous citez en exergue de votre livre l'écrivain Isaac Asimov, la phrase la plus excitante à entendre en science, celle qui annonce les nouvelles découvertes n'est pas « Eureka », j'ai trouvé, mais plutôt « Tiens, c'est marrant », une expression qui illustre bien les 14 découvertes que vous avez sélectionnées.
Oui, tout à fait. Le leitmotiv de ce livre était vraiment d'essayer de trouver des situations qui nous remettaient dans la situation d'inconnu et aussi d'amusement.
Alors, on peut parler de hasard, mais il y a un autre mot qui vous a servi de fil conducteur, et c'est un mot qui est assez à la mode en ce moment, c'est sérendipité. Expliquez.
Oui, alors ce mot il est à la mode, mais je préfère aussi rassurer les auditeurs qui n'en ont peut-être jamais entendu parler, parce que c'est un mot qui est assez familier d'un anglophone, mais qui est plutôt obscur pour un francophone.
D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe dans le dictionnaire encore.
Si, il existe encore. Mais pour vous donner un petit peu une idée, en fait, le mot a été introduit au milieu du XVIIIe siècle par l'écrivain et homme politique Horace Walpole. Mais il a intégré les dictionnaires français qu'au début des années 2010. Donc, c'est autant vous dire que c'est très récent.
Alors, qu'est-ce que c'est que la sérendipité?
La sérendipité, au fil du temps, la définition a évolué, s'est précisée. Aujourd'hui, elle peut être résumé de la manière suivante, c'est la faculté ou la chance de trouver une preuve de ses idées de manière inattendue, ou alors au contraire de découvrir avec surprise de nouveaux objets, de nouvelles relations scientifiques sans les avoir cherchées.
Mais vous précisez bien que la recherche fondamentale ou appliquée et la sérendipité ne s'excluent pas.
Non, bien sûr que non. Évidemment que chaque grande découverte sont avant tout le fruit d'un travail, d'un talent, d'une intuition. Mais il faut effectivement planifier des expériences, mais un plan n'est pas sacré. Et ce que démontrent ces 14 histoires, c'est qu'à un moment donné, des chercheurs peuvent se retrouver devant des faits qu'ils ne l'avaient pas prévus, des faits inattendus. Et la particularité de tous ces chercheurs, c'est leur capacité à avoir su rebondir sur ces événements, les transformer, les tourner à leur avantage, prendre des chemins différents.
De traverse.
Prendre des chemins de traverse. Et surtout accepter, et ça c'est, je pense, pas donné à tout le monde, accepter de se remettre à l'inconnu.
Alors, on ne va pas pouvoir évoquer chacune des découvertes que vous retracez dans votre livre. Elles sont toutes passionnantes parce qu'elles sont le fait d'hommes au parcours étonnant. Mais on va en choisir quelques-unes. Par exemple, la pénicilline. Si Alexander Fleming avait été plus ordonné, plus méticuleux, eh bien, il n'aurait peut-être jamais découvert le tout premier antibiotique et n'aurait jamais décroché, en 1945, le prix Nobel de médecine.
Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
Alors racontez-nous.
Là, on est en 1928. On est 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Et Alexander Fleming est un jeune médecin qui a été particulièrement marqué par les soldats qui sont tombés sous ses yeux les uns après les autres, victimes de septicémie, dues à des plaies ouvertes qui étaient autant de boulevards pour les bactéries. Donc le chercheur concentre ses recherches sur les agents antibactériens et les bactéries en général. Et là, nous sommes à l'été 1928. Et Fleming cherche à établir un lien entre les couleurs des colonies bactériennes qu'il est en train de produire dans son laboratoire et leur potentiel néfaste. Comme vous l'avez dit, Fleming est d'un naturel relativement désordonné, c'est même assez connu dans son entourage. Si bien que, à la faveur d'un été particulièrement ensoleillé, il décide précipitamment de partir en vacances pour profiter du soleil.
Donc il laisse tout en plan.
Le problème, c'est qu'il laisse tout en plan. Et à son retour de vacances, il retrouve un laboratoire sans dessus-dessous. Et il découvre surtout que ces colonies bactérielles, vous savez, ces petites boîtes de pétri dans lesquelles il fait grandir des bactéries, ces boîtes de pétri ont été, pour la majeure partie, colonisées par des champignons. Alors il est un petit peu embêté parce que en plus il a la visite d'un collègue à qui il doit montrer ses travaux dans la journée. Donc il essaye de sauver la plupart des boîtes de pétri qu'il peut sauver en les désinfectant. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre, à sa grande surprise, que autour de d'un champignon, les bactéries ne se sont pas développées. Et à vrai dire, à l'exception des antiseptiques, Fleming n'a jamais observé de substances qui disposent d'un tel pouvoir destructeur sur les bactéries. Alors il découvrira bien plus tard, un petit peu plus tard, que la chance qui lui est tombée, enfin non pas tombée du ciel, mais plutôt qui est montée de l'étage du dessous, parce que les champignons en question sont des petites particules qui viennent...
Volatiles,
qui viennent en fait du laboratoire de l'étage inférieur,
voilà,
qui est un laboratoire de mycologie, qui sont littéralement passés par les escaliers et qui s'y sont installés dans les boîtes de pétri d'Alexander Fleming.
30% des Français de plus de 40 ans souffrent de problèmes d'impuissance. Ah, le phénomène n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau en revanche, c'est que désormais il existe des produits miracles. Et oui, il y a une dizaine d'années sont apparues des petites pilules magiques qui permettent à l'homme de se revigorer.
Tout le monde va vouloir en prendre et je crois que rien qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis, déjà c'est un pays qui est à peu près...
Un peu comment vous dites ?
Un peu barjo sur les bords et tout ce qui vient de là-bas, ça nous arrive ici.
J'ai arrêté parce que je veux quand même pas trop forcer la nature et à notre âge. Bon, on s'en passe, hein, on s'en passe. Bon, ce serait bon peut-être une fois de temps en temps, mais enfin, faut quand même pas forcer. Surtout que mon épouse est pas trop, elle a à peu près mon âge aussi, alors plus très portée sur ce côté-là, quoi.
C'est quand même un médicament qui est reconnu valable pour la vie sexuelle de tous les gens.
Extrait de Culture Pub et des archives de RFI, on parle d'une petite pilule bleue consommée aujourd'hui dans 120 pays. Une petite pilule bleue qu'en 20 ans, 40 millions d'hommes ont expérimenté. C'est le Viagra. Et là encore, Raphaël Chevrier, c'est un formidable exemple de sérendipité.
Oui, tout à fait. Enfin, il est très drôle votre extrait que vous venez de passer. Non, là, on est vraiment... Donc on est à la fin des années 80. Et Ian Osterloh, qui est un chercheur clinicien britannique, est engagé dans une recherche ambitieuse dans les laboratoires Pfizer. Et en fait, il cherche à trouver un traitement pour soigner l'hypertension, et en particulier les angines de poitrine. Voilà. Et donc, il a trouvé une molécule qui est le citrate de sildénafil, qui, a priori, pourrait agir afin de dilater les faisceaux sanguins et prévenir la formation de caillots.
Donc ils vont l'expérimenter
sur une douzaine de cobayes humains au Pays de Galles.
Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Et là, donc, on leur administre à ces cobayes, c'est des sujets volontaires, des doses régulières, toutes les 8 heures pendant 10 jours. Et là, certains signalent des effets secondaires relativement classiques, comme des maux de ventre, des douleurs. Et puis certains osent même rapporter des effets secondaires un peu plus osés, c'est-à-dire des érections intempestives. Bon, alors, l'équipe du laboratoire Pfizer, au début, ne sait pas trop quoi faire, il ne réagit pas trop, parce que c'est Ian Osterloh qui dit lui-même « Bon, aucun de nous à Pfizer n'a pensé grand-chose de cet effet secondaire à l'époque, car il se souvient d'avoir pensé que, même si ça fonctionnait, qui voudrait prendre une drogue le mercredi pour obtenir une érection le samedi ?» Parce qu'il n'a aucune idée de la rapidité de l'effet que ça peut avoir.
Et puis finalement ?
Et puis finalement, les cas sont de plus en plus nombreux, les cas sont de plus en plus fréquents à rapporter des érections intempestives suite à la prise de médicaments. Donc là, les chercheurs sont bien obligés de ne pas fermer les yeux sur ce type d'événement surprenant. Et ils décident de rediriger les recherches vers ce phénomène, d'autant que finalement, le traitement montre assez peu d'effets sur les angines de poitrine.
Et ça va devenir un formidable succès
à travers
le monde.
Oui, oui. Alors bon, c'est-à-dire que il y a quand même pendant quelques années, la première étude pilote, elle intervient que en 94. On met du temps à essayer d'être certain que le Viagra n'est pas dangereux pour la santé, que ça ne cible que le pénis. Voilà, qu'il n'y a pas d'effets secondaires relativement graves. Yann Osterloh est très très soulagé des rapports des patients qui lui disent que finalement ça stimule leur activité sexuelle. Attention, ça ne procure pas une érection, ça accompagne la stimulation, l'excitation.
Et le Viagra fête cette année ?
Le Viagra fête cette année, c'est
20 ans.
C'est 20 ans.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah.
Follow her down to a bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the Sky with Diamonds, clin d'œil des Beatles au LSD, la plus puissante des drogues hallucinogènes qui a marqué toute la période hippie dans les années 60, inspiré une pléiade d'artistes et rencontré l'engouement d'un certain public.
En l'espace de 20 à 30 minutes, l'énergie commence à couler sous votre peau.
On sent l'odeur de la musique.
Une euphorie, une envie de rire, une vision profonde, de la compassion.
Le temps et l'espace s'effondrent.
On voit beaucoup mieux les connexions entre toutes les choses.
Des choses qui paraissent distinctes, comme un tapis et un mur, deviennent un continuum tapis-mur. Tapis-mur-plafond, gens, fruits, musique.
C'est un flash, l'expérience de l'autre, du divin.
Ça vous ouvre les yeux sur un horizon immense dont on ignorait complètement l'existence.
Extrait du documentaire de Pamela Caragol, Voyage au cœur du LSD. Raphaël Chevrier, on a du mal aujourd'hui à voir dans le LSD une découverte scientifique majeure. Pourquoi l'avez-vous retenu dans votre livre ?
Alors, je l'ai retenu parce que je trouvais cette... Déjà, il y a beaucoup de science derrière cette découverte. Le LSD a été découvert par Hoffman en 1938, et à l'origine, il cherchait, lui, à trouver un remède contre la migraine. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il cherchait à synthétiser des dérivés de l'acide lysergique qui, en fait, était produit par l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est assez bien connu, c'est un champignon très toxique.
Utilisé depuis la nuit des temps ?
Utilisé, pas vraiment, subi depuis la nuit des temps, parce qu'il y a eu il provoquait des crises de folie extrêmement intenses dans le Moyen-Âge, quand la farine était un petit peu avariée. C'est vraiment un champignon parasite assez dangereux. Sauf qu'il a montré des capacités à pouvoir agir pour traiter la migraine. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà pourquoi Hoffman cherche à synthétiser des dérivés. Et le LSD-25 est la 25e substance de cette série. Alors, le problème, c'est que cette recherche est assez rapidement abandonnée parce que finalement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il note d'ailleurs une certaine agitation chez les animaux qu'il teste. Et donc, elle est laissée de côté pendant 5 ans.
Et lui, il garde
l'idée. Sauf que le chercheur, il garde ça dans le fond de sa tête. Et il revient un petit peu par hasard, par intuition. Lui, il explique qu'il revient un petit peu par intuition. Il avait le sentiment que le LSD n'avait pas encore dévoilé tous ses mystères. Un jour, il est encore en train de travailler sur cette substance. Il en a réussi à en produire une forme cristallisée. Et là, tout d'un coup, il est pris de vertige.
Et parce qu'il en a avalé donc quelques...
Il en a ingéré du bout des doigts, voilà. Il s'est frotté la bouche. Voilà, c'était...
Par inadvertance.
Et le
premier trip de l'histoire de l'humanité.
Il va faire l'amorce du premier trip. Le premier trip qu'il fait vraiment, c'est 3 jours après, parce que là, il se réveille dans son canapé complètement hagard, et 3 jours après, il décide d'en prendre une dose beaucoup plus forte. Il donne de sa personne pour la science, et là, il va faire le premier trip de son histoire. Il ne reconnaît plus sa voisine. Sa voisine est devenue une sorcière. Perfide. Là, c'est vraiment le premier voyage intérieur. Et ce qui le surprend le plus, c'est qu'en sortant de ce premier trip, il se souvient de tout. Il a la conscience parfaitement alerte. Il n'a pas du tout la gueule de bois comme quand on prend un peu trop de verre dans un bar. Donc voilà, il se rend compte que le LSD est une substance la plus puissante que lui n'ait jamais connue. Alors si je l'ai choisi, c'est aussi parce que le LSD, avant d'être une substance, un produit, une drogue récréative, c'est d'abord considéré par les psychothérapeutes...
Comme un moyen de soigner
l'alcoolisme, comme un moyen de soigner les traumatismes. À l'époque, là, on est après la guerre liée aux camps de concentration. L'angoisse face à la mort pour des patients qui sont atteints de cancer. Et voilà.
Mais on va se rendre compte assez vite quand même que c'est un médicament beaucoup trop dangereux.
C'est-à-dire que les effets sont vraiment dépendants de la dose que l'on prend. Donc c'est une pratique qui doit être très encadrée. Et quand il prend le champ de la société civile, les prises sont pas du tout maîtrisées. Et effectivement, ça en envoie plusieurs à l'hôpital psychiatrique. Mais à la base, il y a quand même plus de 2000 études, je crois, qui sont faites au tout début, entre 47 et les années 50. Il y a vraiment des résultats très très probants qui montrent que, pris de manière très modérée, le LSD peut ouvrir le champ de la conscience et accélérer les processus de thérapie.
Et vous racontez qu'un an avant sa mort en 2007, Albert Hoffman a écrit à Steve Jobs, le fondateur d'Apple et lui-même consommateur de LSD, pour lui demander de soutenir les travaux d'un psychiatre suisse. Ça veut dire qu'il n'avait pas renoncé à voir sa découverte utilisée à des fins thérapeutiques.
Non, il a même été assez peiné de voir que c'est ce qu'il appelait en fait son enfant terrible. Il était assez peiné de voir que la direction qu'a pu prendre le LSD, mais lui, il avait toujours l'espoir de pouvoir le refaire revenir en enfant brillant. d'enfant terrible à enfant brillant.
Et est-ce qu'on sait si Steve Jobs a répondu à cette
demande ? Steve Jobs est décédé 2 ans plus tard, donc je pense qu'il n'a pas vraiment eu le temps de s'intéresser à la question. Mais par contre, le chercheur à qui qu'il souhaitait soutenir, lui a publié en 2014 la toute première étude clinique parue officiellement sur le LSD auprès de 12 patients et qui démontre les mêmes résultats que dans les années 50.
Alors, il y a une autre découverte, pas forcément essentielle dans l'histoire de l'humanité, mais qui depuis les années 60 facilite la vie quotidienne de millions de gens dans le monde entier. 85% des cuisines françaises en sont aujourd'hui équipées, c'est le four à micro-ondes. Et là, c'est un bel exemple de réussite industrielle. Tout est parti d'une barre au beurre de cacahuètes fondues au fond d'une poche de pantalon.
Oui, alors là, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et Percy Spencer, qui est...
Un jeune Américain,
mais autodidacte. Il a arrêté l'école en 6e. Il a tout appris. Il est d'abord devenu électricien. Ensuite, il est devenu spécialiste des radars, à une époque où l'armée américaine en a fait son deuxième projet, après le fameux projet Manhattan lié à l'atome. Ils en ont fait leur priorité parce que ça permettait à l'armée américaine de débusquer depuis les airs les sous-marins allemands, par exemple. Et un beau jour, donc Percy Spencer, lui, est employé dans une entreprise qui finalement se retrouve un petit peu au chômage technique à l'issue de la guerre et qui doit savoir, elle s'est érigée en spécialiste de la confection de radars et elle se demande qu'est-ce qu'elle peut bien faire maintenant avec toute cette expertise. Bah, c'est Percy Spencer qui va leur offrir complètement à son insu la réponse sur un plateau. Un beau jour, il est en train de travailler à côté d'un radar en action et là, il constate que sa friandise au beurre de cacahuète est en train de fondre dans sa poche. Alors il aurait pu
croire
passer...
que c'était la chaleur
humaine. Il aurait pu croire
humaine.
Que c'était la enfin, voilà. Je
et
pense que
fait...
c'est pas la première fois qu'on découvre une barre chocolatée fondue dans sa poche. Lui a essayé de comprendre ce qui s'était passé. C'est pas quelqu'un comme les autres, hein, quand on lit le portrait de Percy Spencer. Et là, il arrive à faire le lien entre l'activité du magnétron, du radar qui lui produit des micro-ondes et la barre de chocolat. Alors son premier réflexe, ça va être, allez savoir pourquoi, de mettre des grains de maïs près du radar et les grains de maïs éclatent comme des pop-corns immédiatement. Ensuite, il place un œuf dans une sorte de boîte métallisée dans laquelle il a percé un trou, il a dirigé le radar dedans, c'est vraiment le prémisse du four à micro-ondes moderne. Et l'œuf explose au visage de son collègue. Ils sont tous complètement médusés, ils y voient une vraie manière révolutionnaire de cuire les aliments en quelques secondes.
Et alors pourquoi dites-vous que son absence de diplôme aura sans doute été, pour Percy Spencer, une chance plus qu'un handicap ?
Bah, c'est-à-dire que dans toutes ces histoires, il y a quand même quelque chose qui revient, c'est la capacité à s'extraire de nos connaissances. On a tous des idées reçues et plus on est éduqué, plus finalement on a tout un tas de théories en tête, peut-être desquelles il est peut-être plus difficile de se défaire. Et lui, finalement, pour lui, il a appris que rien n'était impossible. Il a appris à tout remettre en question, que les choses n'étaient pas figées. Et c'est pour ça que je dis cette chose-là.
Et pour la petite histoire, il a déposé 300 brevets au cours de sa vie. Mmh. On va écouter un morceau que vous avez choisi, Raphaël Chevrier, For What It's Worth, premier grand succès de Buffalo Springfield, une chanson signée Stephen Stills en 1967.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds.
are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. Starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on.
Vous écoutez toujours autour de la question. Alors on l'a vu, il a fallu de la chance, de la curiosité, de la persévérance, de l'imagination, parfois du courage aussi, aux auteurs de ces découvertes que vous racontez dans votre livre, Raphaël Chevrier, « Ça alors », paru aux éditions La Librairie Vuibert. Marcel Hott, vous êtes archéologue, historien de l'art et professeur de préhistoire à l'Université de Liège en Belgique. Vous publiez « L'audace de Sapiens, comment l'humanité s'est constituée » aux éditions Odile Jacob. Ces qualités que je citais à l'instant, est-ce que vous pensez qu'on a oublié de les reconnaître chez l'homme préhistorique ?
Oui, cette intervention-ci, la mienne, donc, suit harmonieusement celle qui précède, parce que vous avez remarqué à quel point M. Chevrier a insisté sur l'intuition, l'imagination et la difficulté de faire admettre quelque chose qui apparemment ne servait à rien. Et nous sommes exactement dans le même schéma que j'essaie de développer dans mon bouquin, sur l'origine de l'homme, l'origine de l'humanité en général. Et de l'homme d'abord par rapport aux lois biologiques qu'il a dû surmonter, transgresser et devenir lui-même, loi biologique de l'environnement ou bien sa propre nature. Et donc là, il a fallu en effet développer beaucoup d'intuition, d'imagination pour devenir soi-même au fil des millions d'années, et puis dans tous les aspects de la vie sociale et technique, religieuse. Et en même temps, le seul point d'aboutissement de mon bouquin, c'est de montrer que l'humanité fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire par une contrainte naturelle ou sociale, et par une audace qui va la surmonter, ou du moins la mettre en question. Le corollaire, c'est évidemment que cette audace n'est reconnue comme telle qu'à partir du moment où elle devient socialisée, où elle devient instituée. Et une fois qu'elle est instituée, nous sommes dans plein paradoxe, puisque l'institution elle-même va ne faire que protéger ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît, et donc rejeter les nouvelles audaces.
Marcel Hott, donc si je vous ai bien compris, on s'est trop focalisé depuis Darwin sur les facteurs biologiques qui auraient régi l'évolution humaine et pas assez sur ce que vous appelez les conquêtes de l'esprit.
Oui, c'est un peu dans l'air du temps, hein, ce cher Darwin, mais nous sommes quand même au 19e siècle, là, et nous sommes dans la lignée des naturalistes, spécialement en français. Donc, dans les sciences naturelles, il est assez normal que l'on voit une force naturelle qui explique l'évolution de la nature de manière générale, le cosmos, les plantes, les animaux. Et puis, tout à coup, on a osé appliquer cette théorie à l'homme. Donc, quand nous étions dans un milieu naturaliste, il a paru assez naturel, assez normal, plutôt que ce soit aussi des lois naturelles qui expliquent l'évolution humaine. Et on a toujours eu peur, hein, c'est peut-être ça le fond du problème, on a toujours eu peur de la possibilité de la pensée d'accélérer ou de conserver des statuts, des stades de l'évolution humaine. On a eu peur assez curieusement parce que les philosophes, même contemporains ou antérieurs, comme Kant ou Nietzsche, avaient bien montré qu'évidemment, l'homme se fait par sa pensée. Et il y a un fossé, toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui s'est installé et qui s'est approfondi entre ce que l'on sait de l'histoire de l'homme, l'histoire toute récente, et son évolution biologique comme si il y avait, c'était deux processus différents. Donc moi je pense que l'aspect processuel dans le domaine biologique de l'humanité est dû exclusivement à sa pensée et donc à son audace et à ses différentes étapes dans la conquête de son destin.
Alors justement, quelles idées fausses aviez-vous envie de corriger ? Est-ce que vous pouvez prendre des exemples concrets ?
Ça devient délicat. Oui, l'exemple le plus bateau et le plus évident, c'est qu'évidemment, et on n'a pas attendu que la forêt régresse pour que des primates, tout à coup, à terre, sans arbres, donc, se mettent à marcher. Je pense que là, il y avait une intention parmi les primates arboréens, avant, de sortir de la protection forestière, et donc d'utiliser des outils, et donc de devenir carnivore, de savoir construire des abris, avant de quitter la forêt, parce que sinon ils sont évidemment éliminés par les prédateurs. Donc ça c'est l'exemple le plus classique, mais on peut en voir au fil du temps. Vous voyez, quand les hommes modernes, parce que mon livre tourne surtout autour de cette période, quand les hommes modernes arrivent, on les voit apporter une nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire ils sont religieux, ils sont en tout cas artistes, et ils codifient leur mythologie sous forme d'images, et surtout ils ont l'audace d'envahir des territoires complètement différents de leurs aires d'origine, qui était à mes yeux l'Asie. Donc pour simplement se déplacer sur d'aussi grandes distances et s'adapter à des milieux aussi différents, milieux culturels et naturels, il fallait avoir beaucoup d'audace. Or, je crois que dans la littérature classique ou habituelle, on oublie la partie imaginative, la puissance de l'imagination dans la progression, dans l'arrivée des hommes modernes. Ils devaient s'adapter. Donc ce n'est pas, à mes yeux, ce n'est pas du tout une extinction des Néandertaliens par des guerres ou par des épidémies, mais simplement une perte de confiance en eux, de leur métaphysique, de leur foi, qui les a fait disparaître progressivement, un peu comme les Indiens d'Amérique du Nord aujourd'hui disparaissent parce qu'ils savent que notre mode de vie apparaît. Oui, il s'agit toujours d'une confrontation entre deux modes idéologiques dont l'un semble supérieur à l'autre, et donc ils perdent une perte de foi des personnes colonisées, le peuple colonisé par rapport à ceux qui les colonisent. Et ça, ce n'est que dans les sciences humaines qu'on peut les expliquer, en matière d'anthropologie sociale, par exemple. Et curieusement, on peut comme vous le soulignez, il y a un tel fossé entre les données paléontologiques et les données des sciences humaines que jamais le pont n'a été lancé, n'a été tracé d'un domaine à l'autre, alors que toutes les données sont là, tout de même.
Vous incitez aussi beaucoup sur la transgression, l'idée de transgression, et vous dites que c'est par la transgression, par l'aventure, que l'homme a évolué. Vous prenez l'exemple, un exemple tout simple, celui du premier feu allumé par l'homme.
Oui, c'est évidemment fondamental, surtout par la suite de cette conquête. Oui, le fait que l'on transforme un milieu de manière aussi radicale, par la maîtrise de physico-chimique des éléments distincts au départ, que l'on combine par le mécanisme du feu, va donner une puissance non seulement sur la matière évidemment, mais aussi sur l'environnement. On va donner la chaleur là où il fait froid, la lumière il y a de l'ombre, mais surtout la métaphysique s'enclenche là, ou du moins prend un sacré processus d'accélération, puisque le feu va aussi permettre à la conscience humaine de se réaliser sa puissance par rapport à son destin. Il va donc le mettre, comme on dit, dans une situation démiurgique, c'est-à-dire qu'il va s'opposer aux forces divines. On ne peut pas parler de Dieu à ce moment-là, mais en tout cas aux forces naturelles. Il se sent investi d'une puissance que l'animal ne possède pas. Et ainsi, c'est dans la conscience, bien sûr, que sachant cette puissance-là de modifier totalement l'environnement et même le comportement animal, qu'il va ainsi de suite prolonger ses audaces par la transgression, en effet. Ceci, je travaille sur des centaines de milliers d'années, donc on peut concevoir qu'une trajectoire dans ce que je répète ici. Mais la trajectoire est évidente. On voit apparaître des sépultures, par exemple, ou l'art plastique, toujours dans le même ordre. Et ça finit par l'écriture et par la constitution des villes, des cités, des États, etc. C'est toujours dans le même ordre, que l'on soit en Amérique du Sud, que l'on soit en Chine, que l'on soit dans le bassin méditerranéen, il y a un ordre et qui permet d'imaginer qu'il y ait une sorte de programmation dans ces transgressions, comme si l'esprit humain, où qu'il soit, et quand il soit, ne se satisfasse jamais de sa propre condition. Et donc il va créer des barrières, et surtout il va créer des raisons pour surmonter, pour transgresser ces barrières. C'est le propre de l'humanité. Vous voyez, si on va sur la Lune, ce n'est certainement pas par une pression de l'environnement ou démographique. C'est parce que, justement, on ne peut pas y aller qu'on y va. Et, ou bien, lorsque vous voyez les Esquimaux qui vivent sur la banquise, c'est évidemment pas une pression de l'environnement qui va les pousser jusque-là-haut. Et c'est ainsi à chaque fois dans l'histoire de l'humanité. J'ai essayé de résumer une petite théorie dans ce livre, mais qui en fait est un peu plus sournoise, puisque j'ai essayé de montrer qu'aujourd'hui encore, comme votre invité précédent l'a laissé entendre clairement, aujourd'hui encore, toutes les institutions ont tendance, ce qu'on appelle la contrainte, à réprimer. On a peur de cette imagination, de cette intuition, parce qu'elle n'est pas au départ démontrable. Je suis persuadé, étant chercheur moi-même, que ce n'est pas la démonstration qui nous attire et qui nous impressionne. La démonstration vient après l'intuition, et cette intuition est tout à fait irrationnelle, en effet.
Raphaël Chevrier, vous êtes d'accord avec Marcel Hoth? Vous donnez l'exemple d'un astronome, par exemple. On l'autorisera à utiliser un télescope s'il donne à l'avance l'assurance qu'il va bien détecter un phénomène cosmique attendu, ce qui restreint évidemment ce qu'on peut attendre de la recherche.
Non, mais c'est très intéressant ce que dit Marcel Hoth, parce que moi, j'ai le sentiment quand même que dans nos sociétés modernes, on essaye de mettre en place toutes les conditions pour justement provoquer l'intelligence humaine. On a quand même une certaine manière de justifier cette grande compétition globalisée en mettant la concurrence entre les chercheurs eux-mêmes, entre les entreprises elles-mêmes. Et on dit que c'est souvent un facteur d'accélération, un catalyseur de découverte, de connaissances. Et donc, effectivement, on peut se poser aujourd'hui la question, à une époque où les chercheurs passent un temps fou, à essayer de justifier à l'avance l'objectif de leur recherche.
Pour trouver des fonds.
Pour trouver des fonds. Enfin, je pense que n'importe quel chercheur va aujourd'hui vous dire à quel point, quand il se lance dans une expérience, cette expérience-là est complètement bornée. On peut se demander la pertinence de ces conditions pour pouvoir faire de grandes découvertes. De la même manière, chez certaines entreprises, vous savez que il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que beaucoup d'entreprises de R&D, de start-up et de R&D,
recherche
et développement. Voilà, qui constituent des armées souvent constituées de chercheurs, pour pouvoir trouver et développer le nouveau produit révolutionnaire. Eh bien, il existe aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle des crédits d'impôt accordés par l'État pour pouvoir aider ces entreprises à faire ces nouvelles découvertes, qui par définition ne sont pas...
Ça veut dire qu'il y a une concurrence entre les chercheurs et les start-up.
Non, mais c'est surtout que ce qui est étonnant, c'est que pour réussir à trouver ces financements, les entreprises doivent à la fois dire « on va trouver le produit révolutionnaire » et en même temps justifier que ce produit n'existe pas. Et donc ils se retrouvent complètement entre les deux. Ils doivent faire tout un état de l'art en disant « voici aujourd'hui l'état des connaissances et nous, on demande ce financement parce que, c'est les fameux crédits d'impôt recherche, on demande ce financement parce que, par définition, on n'a pas de réponse à ce que l'on cherche à trouver. »
Yeah.
Raphaël Chevrier, votre livre, ça alors, histoire de ces découvertes que l'on n'attendait pas, pose des questions qui ouvrent des abîmes, parce que ce ne sont pas juste des questions scientifiques. Où en serait aujourd'hui l'humanité sans ces grandes découvertes dues au hasard? Est-ce qu'elles se seraient produites tôt ou tard, ou est-ce qu'on aurait pu arriver à un tout autre stade de développement en fonction d'autres hasards?
Oui, bah alors ça c'est une question évidemment à laquelle je n'ai pas du tout la prétention de répondre dans ce livre, mais c'est vrai que ça pose cette question-là. Est-ce que l'humanité était destinée à en arriver à ce degré de connaissances technologiques et scientifiques actuelles, ou alors est-ce qu'elle aurait pu prendre des chemins complètement différents?
Marcel Hoth, vous avez une opinion là-dessus?
Oui, j'en ai beaucoup des opinions. Hein. Mais je pense que tôt ou tard, comme vous avez dit, ces découvertes eussent été faites. Je pense que l'esprit humain est conditionné pour l'aventure et donne un goût à la vie par ses aventures. Par exemple, vous venez de nous passer de la musique, là, pour l'instant. Le créateur de la musique, il n'est pas conditionné, on ne lui demande pas de faire de la musique. Il le fait par goût et par envie, et ensuite, elle plaît. Cette musique. Donc je crois que c'est le simple fait que, pour en rester dans le domaine de la musicale, qu'il y ait de la musique partout sur la Terre, il n'y a pas une civilisation qui ne la connaisse pas, même chez les populations les plus sauvages actuelles, montre bien qu'il y a quelque chose dans la pensée humaine qui est peut-être plus dans sa conscience et dans sa sensibilité qui est parfaitement universelle. Donc, pour reprendre la question dans l'ordre chronologique, oui, il y aurait toujours eu ce genre de découverte. Mais je pense aussi qu'elles auraient été toujours dans le même ordre et qu'elles étaient à la fois inévitables, programmées, enfin au sens où la pensée crée des inventions, et que ces inventions elles-mêmes stimulent d'autres, mais pas n'importe quelles autres, celles qui sont conditionnées par celles que l'on vient de faire. Voyez. Donc il y a une filiation qui est due, je pense, à l'universalité de la pensée, et cette universalité, moi, je la place très tôt, c'est-à-dire il y a quelques millions d'années déjà. Bien sûr, les découvertes, elles, varient, elles se transforment, elles évoluent. Là, il y a une évolution. Mais les capacités, je ne vois pas bien où elles apparaissent de manière aussi pleine qu'aujourd'hui.
Raphaël Chevrier, il n'y a pas de femme dans votre livre. Alors, est-ce qu'on peut rendre tout de même un petit hommage à Jocelyn Bell, une étudiante irlandaise à qui l'on doit la découverte en 1967 des pulsars?
Oui, évidemment.
Alors oui. Les pulsars, d'abord, qu'est-ce que c'est les pulsars?
Les pulsars, ce sont des étoiles, des objets cosmiques extrêmement étonnants. C'est des étoiles à neutrons extrêmement compactes qui sont là après l'explosion d'une étoile en fin de vie quand elle a utilisé tout son carburant nucléaire. Et donc ces étoiles à neutrons, elles émettent des jets électromagnétiques extrêmement puissants de part et d'autre de ces pôles magnétiques. Et en fait, quand on les voit depuis la Terre, si on se trouve dans l'axe de ces faisceaux, eh ben, ça, on a l'impression d'avoir une sorte de phare maritime cosmique en face de nous.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris ces rayonnements pour une tentative d'extraterrestres, hein, de petits hommes verts, d'entrer en contact avec l'humanité.
Bah, disons que c'était la seule explication que Jocelyn Bell avait en magasin. Elle était en train d'étudier, elle, des phénomènes un peu différents. Elle essayait de... Voilà, elle avait, vous savez, ces longues pages blanches sur lesquelles on enregistre les signaux qui lui venaient d'une direction du ciel. Elle attendait des petits signaux, c'est-à-dire qu'elle essayait de détecter la scintillation interplanétaire. En fait, quand vous voyez une étoile dans la nuit, vous voyez qu'elle brille, pas de manière continue, elle a des petites fluctuations qui est due en fait à la lumière qui traverse le milieu interstellaire.
Et elle a remarqué des anomalies.
Et elle a remarqué qu'en fait, normalement, ces scintillations sont tout à fait aléatoires. Et là, les pulsations qu'elle recevait étaient parfaitement chronométrées. Parfaitement, c'était vraiment, c'était toutes les quelques secondes, une poignée de secondes, elle avait un signal extrêmement régulier. Donc voilà, alors sa amie, elle a montré ça à son directeur de thèse qui lui a dit, il n'avait pas autre chose en tête, alors ils n'y croyaient pas vraiment, mais que de penser que c'était, que ça venait d'une civilisation extraterrestre. Et c'est pour ça qu'ils ont d'abord appelé ces signaux, ce phénomène Little Green Man, petit homme vert en anglais. Et ça l'a mis dans une situation assez délicate, hein, Jocelyn Bell. Elle n'était pas très contente d'avoir été choisie par une civilisation extraterrestre pour entrer en contact avec elle, parce que elle, ce qui l'intéressait, c'était de boucler sa thèse de doctorat.
Et alors, ce qui est, enfin, l'ironie de l'histoire, c'est que ce n'est pas Jocelyn Bell qui a obtenu le prix Nobel de physique en 1974 pour la découverte donc de ces pulsars, mais son professeur Anthony Hewish.
Oui, bon, bah là, ça nous rappelle, c'est un exemple parmi d'autres que le monde scientifique n'est pas
très en avance côté.
Bah, n'est pas très en avance,
parité,
c'est-à-dire. Bah, c'est comme les autres domaines, quoi. Il n'est pas. C'est encore une fois, à cette époque encore, c'était un monde extrêmement masculin, extrêmement misogyne. J'avais fait, il y a quelques années, des portraits de femmes scientifiques qui avaient été. Oubliés par l'histoire, qui avait, enfin, et je me suis rendu compte que derrière chaque homme se cachait finalement une femme, et que l'histoire avait retenu ces hommes, et que les femmes avaient dû énormément se battre pour en arriver là où elles étaient, et surtout que les histoires se répétaient et se sont répétées très très tard.
Marcel Hott, vous avez un petit mot à dire sur ce fait là que, qu'on oublie un peu trop les femmes quand même dans la.
Oui, c'est possible, c'est possible. Je n'ai pas oublié ma mère dans tout mon. Parce que finalement, l'intuition vient de la maman, puisque c'est elle qui donne le goût de la poésie et de la liberté de penser par l'affection qu'elle procure. Donc c'est sûr. Mais le nom, je n'en sais rien. Ceci dit, ça ne m'étonne pas du tout. Cette histoire de pulsar, je ne la connaissais pas dans ce détail. Mais remarquez qu'à nouveau, il s'agit d'une intuition que cette dame a ressentie et qu'ensuite elle a cherché à le démontrer. Et au départ, c'est simplement la curiosité qui l'a conduite. Ce n'est pas une recherche systématique.
Donc on en revient à l'intuition. Oui. Merci beaucoup Marcel Hott et Raphaël Chevrier d'avoir été nos invités. Je renvoie nos auditeurs à vos livres. Hein. Marcel Hott, L'audace de Sapiens chez Odile Jacob. Raphaël Chevrier, Ça alors, histoire de ces découvertes que l'on n'attendait pas, publié par la librairie Vuibert.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Merci à Thibaut Baduel qui a réalisé cette émission et à Caroline Fillette qui m'a aidé à la préparer. On se retrouve demain pour aborder une autre question. À quoi ressemblerait un monde sans abeilles ? D'ici là, restez curieux.